Bonjour et bienvenue dans l'atelier des médias, je m'appelle Steven Jambeau. On est ensemble pendant une vingtaine de minutes si vous nous écoutez à la radio, plus encore si vous avez choisi notre podcast. Je vous parle cette semaine depuis VivaTech. VivaTech, c'est un salon international de la technologie qui se déroule à Paris. Chaque année, pendant 3 jours, il réunit jeunes pousses et géants de la tech. Parmi les intervenants, des noms connus comme le patron de Facebook Mark Zuckerberg ou le directeur général de Microsoft Satya Nadella. Il y en a d'autres qui sont en train de se faire un nom, comme notre déjà prestigieux invité d'aujourd'hui. J'ai nommé Eric Léandri, fondateur du moteur de recherche Quant. Je le recevrai tout à l'heure, mais avant cela, je suis sorti de cet immense hall de la porte de Versailles pour essayer de discuter au calme, tant que faire se peut, avec un entrepreneur nommé Tongje Bakang.
Bonjour, je m'appelle Tongje Bakang, je suis un entrepreneur français, mais surtout globetrotter.
Tongje Bakang, vous êtes actuellement directeur au sein de The Family, qui est un incubateur de start-up qui dispose de bureaux à Paris, à Londres, à Berlin. Avant cela, vous aviez lancé un site de streaming vidéo qui s'appelait AfroStream. On va y revenir. Vous êtes un entrepreneur né. Je crois que vos premières productions, parce que vous avez fait de la production auparavant, notamment audiovisuelle, c'était dès l'âge de 16 ans. D'où est-ce que ça vous est venu, cette envie de créer ?
Cette envie de créer est venue d'un manque d'accès à des opportunités. Mon père était médecin, ma mère infirmière, donc rien à voir avec l'univers de l'entrepreneuriat et des médias. J'ai dû moi-même créer mes opportunités, à la fois pour développer un savoir-faire de storytelling et de captation de l'image, de montage et ces choses-là, et aussi devenir le porte-parole finalement de mon premier cercle et partager nos histoires, partager notre vécu, partager notre point de vue sur le monde. Ça, peu de gens pouvaient le faire pour moi, donc j'ai essayé de le faire pour moi-même et pour les miens. Donc très tôt, je me suis pris en main et j'ai privilégié l'humain, le réseau, et j'ai eu comme ça, des mentors qui m'ont appris le métier.
Et je le disais tout à l'heure, en 2015, vous avez fondé AfroStream. On l'a alors présenté comme le Netflix africain, mais il n'a duré que 2 ans. Avec le recul, comment est-ce que vous résumeriez cette aventure ?
Alors déjà, je dirais que l'aventure n'a pas commencé en 2015, elle a commencé en 2013. Ça m'a pris à peu près 2 ans pour passer d'un mindset 100% média à un mindset plutôt tech. Donc je me suis formé, ça a été ma première rencontre avec cette organisation qui s'appelle The Family, qui m'a donné accès à beaucoup d'éducation autour de la tech. J'avais tous les samedis, j'avais des workshops sur les levées de fonds, sur la conception d'un produit. J'ai lu beaucoup de livres sur l'univers de la tech. Je me suis expatrié quelques mois aux États-Unis pour finalement me plonger dans la Silicon Valley et comprendre justement le potentiel que pouvait avoir la tech dans ma vie. Ensuite, j'ai créé une communauté autour de cette idée qui est AfroStream, et c'est que bien plus tard, donc en 2015, après avoir une communauté de plus de 60 000 personnes, m'être formé, avoir rencontré des investisseurs français, que j'ai eu la chance d'être sélectionné dans le plus gros incubateur du monde qui s'appelle Y Combinator dans la Silicon Valley. Et à travers une expérience incroyable de 4 mois au cœur de la tech mondiale, que j'ai pu lever de l'argent et lancer en 2015 mon service. Nous avons eu 2 années formidables d'activité chez AfroStream. Quand je dis d'activité, c'est à partir du moment où le service a été lancé au public, mais nous avons fait face à plusieurs challenges. Le premier, c'est qu'un média n'est jamais rentable avant les 5 premières années. Et peut-être que la façon dont nos investisseurs voyaient notre business model, ils n'avaient pas forcément conscience de toutes ces difficultés, parce que la plupart d'entre eux n'avaient pas forcément une vision très média. Ils avaient plutôt une vision tech avec un retour sur investissement à un plus court terme. Peut-être que moi, en tant que dirigeant, je n'ai pas fait un bon travail d'éducation de mes investisseurs pour bien leur faire comprendre dans quel cas de figure nous étions. Et il y a aussi plein de choses là. On visait un public issu de la diaspora en Europe, donc qui avait accès à des paiements en ligne, qui avait accès à un internet à un prix raisonnable et aussi un haut débit. Notre ambition était vraiment de nous développer sur le continent africain. Nous avons d'ailleurs lancé AfroStream dans 28 pays, mais l'audience que nous cherchions à atteindre n'avaient pas forcément accès à tous les moyens de paiement, n'avaient pas forcément accès à une connexion satisfaisante pour profiter du service.
C'était trop tôt ?
Oui, c'était tôt. Est-ce que c'est trop tôt ? On ne sait jamais, parce qu'il faut finalement plusieurs acteurs sur un marché, plusieurs essais pour arriver finalement à créer toutes les conditions pour qu'un jour ce type de service se développe. Donc je pense que la contribution d'AfroStream a finalement une grande valeur sur le marché africain. Beaucoup de jeunes Africains, à la fois des spectateurs, des créateurs de contenu, ont grâce à AfroStream découvert de nouveaux horizons et de nouvelles opportunités. Je pense que ça a été très important. Le fait qu'AfroStream est fermé, et j'ai aussi partagé dans un long blog post les raisons de cette fermeture, a permis aussi d'éduquer une partie de l'industrie sur les challenges auxquels il fallait faire face quand on vise le marché africain. Donc, je pense que c'était nécessaire.
Donc en fait, il faut que l'écosystème soit plus mature en termes de financement, en termes de partenariat à la fois entre les pays et également entre les continents, c'est ça ?
Tout à fait. Et je pense aussi qu'il faut que les entrepreneurs et les investisseurs aient vraiment conscience d'où est la vraie opportunité à court terme. Et la vraie opportunité est moins dans ce qu'on appelle du B2C, des entreprises qui visent des individus comme vous et comme moi, mais plus dans des entreprises qui vont viser des PME, qui ont peut-être plus conscience de leurs besoins et qui seront prêtes à payer pour des solutions.
Vous êtes également acteur en faveur des jeunes entrepreneurs, notamment via le prix Anzisha. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Oui, le prix Anzisha, c'est un prix formidable qui a été créé par une école en Afrique du Sud qui s'appelle l'African Leadership Academy, en partenariat avec la fondation Mastercard. Et le but, c'était de réduire le gap dans le financement des entrepreneurs et aider les jeunes entrepreneurs qui ont entre 16 et 22 ans. Donc ces très jeunes entrepreneurs ont finalement très peu accès au capital et les adultes ne leur donnent pas une grande confiance quand ils veulent lancer leur entreprise. Donc on s'est dit, faisons ensemble un support système pour les accompagner. Faisons le pari du long terme parce que les grands entrepreneurs africains comme Dangote ont commencé très jeunes.
Et si on veut vous contacter, comment faire ?
Alors, c'est très simple, je suis sur Twitter, Instagram, Tanje Bakang, et je réponds quand les sollicitations sont intéressantes.
Merci Tanje Bakang, à bientôt.
Merci à vous.
Atelier@rfi.fr.
Avant de poursuivre, une information en bref qui est un petit peu notre fil rouge de ces dernières semaines. Deux journalistes français du média d'investigation à but non lucratif Disclose.ngo ont été entendus mardi au siège de la DGSI. Geoffrey Livolzi et Mathias Destal étaient convoqués par les services de renseignement français suite à la publication d'une enquête sur l'utilisation d'armes françaises dans la guerre au Yémen. En sortant, les deux journalistes ont dénoncé le cadre procédural de leur audition et regretté une tentative d'intimidation. 17 ONG y ont également vu une atteinte à la liberté de la presse. C'est maintenant l'heure de recevoir notre invité, Éric Léandri.
RFI.
Bonjour Éric Léandri.
Bonjour.
Vous êtes le cofondateur du moteur de recherche français Quant. La promesse de Quant, c'est, je cite, « le moteur de recherche qui respecte votre vie privée ». On y reviendra. Tout d'abord, ma première question, c'est qu'est-ce qu'est venu annoncer Quant à ce salon Viva Technologies ?
Plusieurs choses. D'abord, on vient tous les ans à Viva Technologies depuis le début et c'est de plus en plus complet, de plus en plus plein. Donc il y a vraiment beaucoup de monde à qui nous devons expliquer ce que nous avons fait chez Quant. Et là, Quant a plusieurs choses. Quant Junior pour les enfants, ça on l'avait déjà, mais il y a la version qui arrive. School.quant.com, c'est-à-dire la version pour les 13 ans, 18 ans. Quant Junior, c'est 6-12 ans. Là, on fait la suite. C'est le seul moteur de recherche sécurisé pour l'école où vous allez avoir tout trouvé, mais évidemment pas de contenu violent et pas de contenu pour adultes. Et puis, dans la foulée, vous avez Quant lui-même qui est en train de s'améliorer avec Quant Maps qui arrive, donc la carte de Quant qui marche aussi bien sur l'Europe que sur l'Afrique que sur le monde en partenariat avec OpenStreetMap. Et puis, dans la foulée, on est en train d'annoncer Quant Cause. Quant Cause, c'est la possibilité de reverser Vous activez Cause et vous allez pouvoir reverser aux fondations qui font des choses sur toute la planète, mais aussi à toutes les associations d'utilité publique.
Alors en France, en mars 2019, Google représentait plus de 94% des parts de marché des moteurs de recherche. Bing de Microsoft, 3%. Et Quant était derrière à 0,66%.
Il faut arrêter d'utiliser StatCounter. C'est rigolo ça.
Mais ça donne en tout cas un ordre d'idée. Et là, on se rend compte que Quant est face à un géant. C'est David contre Goliath. Et vous jouez la carte de la protection de la vie privée, notamment en développant vos propres outils et vos propres algorithmes pour être indépendant. C'est ça qui est très important déjà ?
Ça, c'est très important parce que ça va nous permettre d'avoir un moteur de recherche souverain européen qu'on pourra ensuite amener sur l'Afrique, amener sur l'Inde, amener sur d'autres pays de façon propre, en respectant les utilisateurs où qu'ils soient dans le monde, en les considérant comme des citoyens. C'est vraiment très important, c'est reprendre la main déjà sur des choses qui sont là. Et puis, derrière, il y a autre chose. Il y a le fait de pouvoir faire de l'intelligence artificielle en Europe, il faut de la data, il faut beaucoup de data. Le fait de pouvoir faire tout un tas de choses en protégeant les citoyens, en protégeant les villes, en protégeant les régions, en protégeant nos data, et surtout en protégeant le secret des affaires. Aujourd'hui, vous avez des groupes comme BNP qui viennent d'annoncer passer 110 000 personnes sur Quant. Vous avez la Caisse d'épargne qui a passé 60 000 personnes sur Quant. Vous avez Crédit Agricole, vous avez Thales, vous avez Safran. C'est des centaines de milliers de personnes qui ont Quant par défaut au démarrage de leur ordinateur.
Et donc c'est ça une des pistes de développement pour vous, c'est de faire des partenariats pour que des gens soient forcés, entre guillemets, par leurs entreprises à utiliser Quant ?
Nous, on ne force pas, hein. Ça c'est chez le voisin. Donc le voisin, il essaie de faire tout le temps que vous soyez coincé, vous ouvrez votre navigateur, vous avez GG par défaut.
Vous avez Chrome,
parce
par exemple.
Parce qu'il a payé, vous ouvrez Chrome, c'est à lui, vous ouvrez Firefox, il a payé 350 millions, vous ouvrez Safari, il a payé 12 milliards pour être là par défaut. Nous, c'est l'inverse. On est installé. Mais si vous voulez retourner chez le voisin, la compétition n'est qu'à un clic, vous tapez GG dans Quant, et puis vous pouvez réinstaller Google, il n'y a pas de problème. Et pour finir, on garde 80% des utilisateurs qui nous ont essayé.
Et les utilisateurs, la protection de leurs données personnelles, on a l'impression que pour certains, eh bien, ce n'est pas si important que ça, puisqu'il y a encore énormément de monde qui est sur Facebook, 2 milliards de personnes continuent à utiliser Facebook. Est-ce que vous n'avez pas l'impression un petit peu de lutter et d'être face à un océan ?
Ouais, wow. Alors la protection des données personnelles, on peut toujours en parler. La protection du secret des affaires, je peux vous dire que les boîtes qui ont décidé de plonger avec nous comprennent très bien pourquoi elles le font. La protection des données de l'État, la protection d'un ministère de Bercy par exemple qui cherche pour mettre un peu de taxes à des géants qui ne payent pas d'impôts, c'est mieux de chercher chez nous que chez eux. Voilà, ça c'est le genre de protection qu'on amène, mais juste un petit truc pour vous et moi. Quand vous faites une recherche d'avion, quand vous faites une recherche d'hôtel, ou quand vous faites une recherche de choses comme ça sur un moteur de recherche, chez nous, on ne revend pas vos données. Donc on vous donne toujours le prix le plus bas. Chez les autres, ils revendent vos données, donc les prix changent, les prix montent.
Éric Léandry de Quant, il y a quelques semaines, vous disiez aux éditeurs de presse français « Envoyez-moi vos relevés d'identité bancaire, je vais vous rémunérer
ouais. ».
Combien l'en fait ? Où en est-on ?
Alors, il y en a une douzaine qui l'ont fait. Les 12, dès demain, on va envoyer les factures pour leur demander l'appel à facturation et on va les régler. Et le premier qui l'a fait, c'est le point. RFI, je crois pas. Je vais vérifier avec France 24. Donc, résultat de l'histoire, on le démarre. Et nous, c'est 5% du chiffre d'affaires qui va être versé aux éditeurs.
Ça
donc,
représente combien ?
Bah, ça fera 1 million ou 2 millions très vite. Et puis après, ça montera. Chez le voisin, s'il fait la même chose que moi, c'est 200 millions cette année qu'il devrait vous donner.
Donc ce serait énorme et ça leur ferait mal au porte-monnaie ?
Mais non, ça leur ferait pas mal au porte-monnaie. Ils font 3 milliards et demi, ils ne payent pas d'impôts. S'ils payaient les impôts, ils mettraient 1 milliard par an ici. Donc ça ne fera pas mal au porte-monnaie. La seule chose que ça pourrait faire, c'est laisser la presse libre et indépendante. Ça me ferait très plaisir.
RFI dispose de beaucoup d'auditeurs sur le continent africain. Quels sont les projets de Quant en Afrique ? Vous aviez notamment fait des choses en Côte d'Ivoire, je crois.
Oui, en Côte d'Ivoire, on a fait différents partenariats. On continue à avancer avec la Poste de Côte d'Ivoire, aussi au niveau du gouvernement, pour mettre en place déjà deux choses. Une technologie qui s'appelle B-Bound, qui permet de couvrir à 90% le territoire de Côte d'Ivoire en transformant la 2G en Internet. Ça permettra de travailler. On est partenaire du festival de Kroubi qui est en train de se jouer. Ça rentre dans notre idée de faire de la cartographie du nord, du sud, de l'est, de l'ouest des pays africains. Et puis, dans la foulée, nous créons Quant Academy qui permet de reverser toutes les informations de l'index d'un pays à son pays. Quels sont les journaux du pays, quels sont les tweets du pays, quels sont les sites faits dans le pays. Ça, c'est très important. Dans la foulée, on travaille avec différents partenaires, type l'Inagora et d'autres, pour créer aussi la possibilité de former les jeunes directement là-bas à l'intelligence artificielle et au métier de demain, pour compléter les besoins que l'on peut avoir. Mais surtout, on est partenaire depuis 2-3 ans de Bonjour Idée et du Startup Africa avec... Pendant 2 ans, en tout cas, on a vu toutes les startups qui pouvaient être vues en Afrique et c'était absolument génial parce qu'ils font des choses vraiment de la tech for good. Là, c'en est de la vraie et en plus souvent vraiment, vraiment, vraiment très, très beau et très touchant à écouter parce qu'il y a des vraies histoires qui règlent de vrais problèmes en plein milieu de la brousse et c'est super important. Et donc, nous, notre idée, c'est d'amener les technologies européennes d'aujourd'hui, les technologies de demain, à disposition de l'Afrique et là où on peut mettre en place des serveurs, distribuer de la technologie, expliquer l'open source.
Une dernière question, est-ce qu'il vous arrive parfois, par mégarde, de faire une recherche sur Google ? Et vous le trouvez comment, ce moteur de recherche ?
Alors, Google, ça fait très 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 longtemps que j'y suis pas retourné. La seule chose que je fais de temps en temps, c'est venir voir quand, soi-disant, il y aurait une amélioration. Ce que je trouve, c'est beaucoup d'améliorations à la publicité. Donc ils font beaucoup de pubs, il y en a de plus en plus, c'est assez sympathique. À l'inverse, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est vraiment un partenariat à nous très fort aussi avec des Américains, parce qu'à la fin vous allez croire que je suis anti-américain, donc je vais aller jusqu'au bout de l'histoire. Aujourd'hui, nous avons un partenariat très fort qui est en train de se développer pour garantir le moteur souverain européen. Et ce partenariat, il est côté Microsoft pour qu'il nous donne plus de puissance pour pouvoir indexer l'Afrique demain matin. Donc pas via leur technologie de moteur, juste par leur cloud, pour avoir encore plus de place pour pouvoir mettre le reste des milliards de pages dont on a besoin, sachant que de notre côté, on va continuer à vous sécuriser, vous donner les réponses, avoir des dizaines de milliards de pages dans notre index. On va l'augmenter de 100 milliards et à ce moment-là, ça couvrira l'Afrique. Voilà, donc on peut faire des partenariats avec des géants, surtout quand les géants commencent à dire que « privacy is a human right », la vie privée est un droit de l'homme, que l'AI doit être éthique et que l'open source est important. C'est marrant, je ne l'attendais pas chez Microsoft, bon ben pourquoi pas.
Mais il faut que ce soit du gagnant-gagnant.
C'est exactement ça.
Merci beaucoup Eric Léandry, je rappelle que vous êtes le cofondateur de Quant et j'invite les auditeurs de RFI à essayer quant.com pour se faire une idée. Je rappelle que Quant s'écrit Q-W-A-N-T. À bientôt.
Voilà, merci à vous.
C'est bientôt la fin de cette émission, l'heure de Mondoblog Audio. Et cette semaine, vous allez entendre une mondoblogueuse qui a fait un tour du web des moteurs de recherche alternatifs.
Devinez quoi ? J'ai trouvé la solution miracle pour vous permettre de planter des arbres tout en restant bien au chaud chez vous. Mieux, j'ai trouvé le truc qui va vous permettre de soutenir des actions pour la sauvegarde de l'environnement ou des projets sociaux, sans bouger le petit doigt et tout ça, gratuitement. Vous n'y croyez pas ? Voyez plutôt du côté d'Internet et des moteurs de recherche. Google Search est le plus utilisé sur la toile et c'est compréhensible. La vitesse de navigation est confortable, il déroule plein de résultats pour vos recherches. Que demande le peuple ? Mais le problème, c'est la publicité. Google collecte vos données personnelles pour cibler la publicité qu'il vous renvoie. Les recherches que vous faites polluent ainsi votre ordinateur pendant des semaines. J'ai donc commencé à chercher des solutions alternatives. Je n'ai pas trouvé de solution efficace contre la pub, mais j'ai trouvé des moteurs de recherche innovants. Ils reversent une partie des bénéfices engendrés par la publicité dans des actions pour l'environnement ou dans des projets sociaux. Avec Ecosia, par exemple, 80% des revenus de la publicité sont reversés à des programmes de reforestation. Avec 3 programmes de plantation, Ecosia participe à la reforestation du Burkina Faso, du Pérou et aussi de Madagascar. Sympa, non ? Tout ce que vous avez à faire, c'est simplement de changer de page d'accueil. Lilo fonctionne sur le même principe. Chaque recherche que vous faites sur le moteur de recherche Lilo permet de financer des dons pour des projets caritatifs, associatifs, humanitaires, que vous choisissez. En plus, Lilo protège votre vie privée en désactivant le tracking publicitaire et il ne collecte pas vos données lors de vos recherches. Ce ne sont pas les seuls moteurs de recherche solidaires ou engagés qui existent, il y en a beaucoup d'autres. Franchement, il y en a pour tous les goûts. À vous de voir quel projet vous plaît le plus. Faire en sorte que les revenus de la pub soient alloués à des projets réels plutôt que rien ne se passe, ben ça dépend de vous. Alors informez-vous, parce qu'il faut changer ses habitudes pour pouvoir changer le monde.
C'était Arva Fagel Abbas du blog Choups Raconte. Et rendez-vous sur mondoblog.org pour retrouver tous les mondoblogs audio diffusés à ce jour. C'est la fin de cette émission que vous pouvez entendre en version longue sur notre podcast. Elle a été préparée avec Camille Deloche, à la réalisation Simon De Creuse, la technique Bertrand Éclair et Marc Fichet. Au micro, Steven Jambot. Je vous dis à la semaine prochaine, même jour, même heure à la radio. D'ici là, si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner au podcast. podcast de l'Atelier des médias.